Hébreux 10, 23 à 39. C'est à la page 1371 dans les Bibles bleues devant vous. 1371. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou de trois témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance, grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce? Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance ». C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Il a ajouté, le Seigneur jugera son peuple. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions. Tantôt vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu. Bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Amen.
Cela vous est-il déjà arrivé d'être tenté de renoncer, tenté de tout plaquer, de faire demi-tour, de rentrer dans le rang, parce que vous ne supportiez plus d'être moqué, ou méprisé, ou rejeté, humilié? À moins que ce soit plutôt parce que vous en aviez marre d'avoir à maîtriser toujours vos pensées, vos paroles, vos actes. Vous vouliez recouvrer une certaine liberté, donner libre cours à vos désirs, vous laisser aller, en quelque sorte, comme tout le monde. Qu'elle soit extérieure ou intérieure, la pression existe, qui éprouve régulièrement notre détermination à rester solidement attachée à la personne du Seigneur, et joyeusement occupé à la pleine réalisation de sa volonté, à lui. Et cette pression est forte, si forte qu'il n'est jamais exclu qu'elle finisse par l'emporter sur notre volonté et notre capacité de résistance. S'il en est un qui en est convaincu, c'est bien l'auteur anonyme de la lettre aux Hébreux, dont nous venons de lire un extrait. Un auteur qui s'inquiète au sujet de ses lecteurs. Il faut dire qu'eux connaissent de grosses épreuves et que, par ailleurs, ils n'ont pas totalement perdu le goût du péché. D'où les craintes de leur pasteur, ces hommes et ces femmes qui, pour s'être tournés vers Christ, ne connaissent qu'injures et persécutions. Tiendront-ils longtemps? Et ces nouveau-nés dans la foi, si fragiles encore, ne risquent-ils pas de retourner en arrière et de retomber bientôt dans leurs travers anciens ? Oui, l'auteur de la lettre aux Hébreux s'inquiète. C'est pourquoi, prenant la plume, si je puis dire, il leur adresse un vigoureux appel à la persévérance. La persévérance. Je relirai ici les versets 23, 24, 25 et 26. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Et faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une terrible attente du jugement et de l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Un appel donc à persévérer. Oui, mais pourquoi et comment ? Deux questions auxquelles nous allons maintenant nous efforcer de répondre dans le temps qui nous est imparti. Alors pourquoi d'abord ? Pourquoi persévérer ? L'auteur de notre lettre nous donne la raison pour laquelle il faut que ses lecteurs, et avec eux tous les chrétiens, soutiennent leur effort sans rien lâcher. La raison donc, l'imminence du jour du Seigneur. Le jour, autrement dit, le jour du Seigneur, ou jour de Christ, seconde partie du verset 25. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Entendez bien sûr ce jour formidable où il paraîtra éblouissant de gloire pour demander des comptes à chacun, à vous comme à moi, et fixer définitivement le sort de tous les hommes, destinant les uns à une félicité sans partage et abandonnant les autres à un malheur sans fin. Ainsi, la raison majeure pour laquelle notre correspondant nous presse, en même temps qu'il presse ses amis hébreux, de tenir bon, quoi qu'il puisse nous en coûter, est telle que le jour de la révélation de Christ est tout proche. Maintenant, il n'est pas sans intérêt de relever les deux réactions qu'espère provoquer l'auteur de ces lignes chez ses lecteurs, en attirant leur attention, comme il le fait ici, sur l'imminence du jour, comme il dit. Deux réactions. D'une part, un regain de courage pour les uns. D'autre part, un changement de cap pour les autres. Un regain de courage, donc, chez les uns. C'est-à-dire, qui sont ceux que l'auteur a en tête ici ? Assurément, tous ceux qui, merci Seigneur, ont résisté jusqu'ici, mais qui pourraient bien finir par flancher tant l'opposition à laquelle ils se heurtent est vive. C'est à cela d'abord qu'il pense et qu'il dit en substance « Regardez, regardez bien et voyez les signes ne sont-ils pas là, devant vos yeux déjà, qui disent l'imminence désormais de la formidable révélation de Dieu en Christ et donc de votre entrée dans ce repos éternel que vous n'avez pas cessé d'appeler de vos vœux depuis qu'il vous a été promis comme prix de votre foi. » Ce serait vraiment trop bête que vous craquiez maintenant, si près du but. Et que ce faisant, vous vous priviez brutalement du fruit infiniment enviable de tous les efforts que vous avez consentis jusqu'ici pour rester fidèle à Christ. Verset 36, « Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous a été promis. » Et l'exhortation vaut pour nous aujourd'hui, nous qui peinons au point qu'il nous arrive de nous sentir défaillir. Mes amis, courage ! Le terme de la course, de notre course, la fin de notre épreuve est là, toute proche. Ce n'est donc pas le moment de craquer. Allez, encore un effort, un dernier, et nous recevrons notre récompense, le repos dont il a été question plus tôt, un repos céleste et la gloire, une gloire à laquelle, nous dit Paul, il est tout simplement impossible, impossible de comparer les souffrances du temps présent. Certains ici, très peu sans doute, connaissent mon goût pour le vélo. Et aussi, étonnant que ça puisse paraître, pour les côtes, j'ai horreur des descentes. Pour les côtes. Les côtes en particulier. D'où ces vacances passées sur les lacets de tel ou tel col, alpin ou autre. D'où ces vacances passées à transpirer, souffrir, gémir, et je n'exagère pas. Que de fois, tout près de défaillir, j'ai été tenté d'abandonner, de mettre pied à terre, d'expédier ma bicyclette dans le fossé et d'attendre qu'un automobiliste charitable vienne à ma rescousse. Que de fois. La raison pour laquelle je n'ai jamais cédé, jamais, toujours la même. Le refus si près du sommet de laisser filer ma récompense. Une mousse bien fraîche, savourée à petites gorgées sous un soleil d'été redevenu tendre. Oui, mes amis, le jour de Christ est proche. Jour de délivrance, de détente et de paix. Alors surtout, surtout, ne mettons pas le pied à terre. Dressons-nous sur les pédales, au contraire, et tirons fort sur le guidon. Serrons les dents s'il le faut, et arc-boutons-nous, car c'est à ce prix que nous obtiendrons ce qui nous a été promis, et que nous espérons depuis, savoir ce bonheur sans lacune que produit immanquablement un salut parfait. Mais venons-en maintenant à l'autre réaction qu'espère provoquer l'auteur de notre texte chez ses lecteurs, en attirant leur attention, comme il le fait ici, sur l'imminence du jour. Un changement de cap. Un changement de cap. Nous l'avons dit, il en est parmi les Hébreux qui, hélas, n'ont pas encore totalement perdu le goût du péché et qui pourraient très bien, fragiles comme ils le sont encore, être tentés, eux, de retomber dans leurs travers anciens. C'est à cela ensuite que s'adresse ici celui qui s'inquiète sincèrement pour tous ses paroissiens. Mais pour leur tenir un discours sensiblement différent du genre, regardez, regardez, regardez bien vous aussi, et voyez les signes ne sont-ils pas là, devant vos yeux déjà, qui disent l'imminence désormais de la formidable révélation de Dieu en Christ, et donc de l'ultime jugement, par lequel le Seigneur a assez dit qu'il scellerait définitivement le sort de chacun. Dans ces conditions, ne croyez-vous pas que vous avez mieux à faire aujourd'hui qu'à retourner à votre ancienne manière de vivre ? Et à vous complaire à nouveau dans le péché, insensé, reprenez-vous donc et changez de cap et faites vite, de peur que le jour, le grand jour, ne vous surprenne et ne vous surprenne à l'écart des voies que Dieu nous trace, et que le feu ne soit alors votre effroyable destin. Et la mise en garde vaut pour nous aussi ce soir, qui sommes peut-être fatigués d'obéir, et qui peut-être caressons secrètement le projet de nous laisser aller, au moins un peu, un temps, à satisfaire les appétits coupables de notre corps mortel. Mes amis, c'est le moment ou jamais de nous ressaisir. C'est le moment ou jamais de nous ressaisir. Puisque le jour où tous nous devrons rendre des comptes au juge suprême est proche, veillons à reprendre sans tarder le chemin de l'entière et persévérante soumission à Dieu. Il en va de notre destinée éternelle. Verset 26 et suivant. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Surtout, ne prenons pas ces avertissements à la légère. Ceux qui reviennent en arrière, lisons-nous encore au verset 39, le font pour leur perte. En est-il un seul parmi nous qui désire se perdre ? Reprenons-nous donc, s'il nous faut reconnaître ce soir, que nous suivons une direction contraire à celle indiquée par Christ. Changeons immédiatement de cap. Et attachons-nous désormais à persévérer, persévérer encore, persévérer toujours sur la voie, difficile certes, mais tellement belle, de la justice. Afin qu'aucun ici ne se découvre un jour privé à jamais de cette félicité absolue que nous espérons, parce que c'est Dieu lui-même qui nous l'a promise, et que Dieu est fidèle. Verset 36 encore, « Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qu'il vous a promis. » Voilà pour le pourquoi de la persévérance, le comment maintenant. Comment persévérer ? Fort sans doute d'une belle expérience pastorale, l'auteur de la lettre aux Hébreux est à même de nous suggérer, en même temps qu'à ses lecteurs, trois règles, parmi d'autres sans doute, trois règles susceptibles de nous aider tous à tenir bon ensemble jusqu'à la fin. 1. Soyez attentifs. 2. Soyez assidus. 3. Soyez encourageants. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Veillons. Permettez que je cite ici le commentaire de Samuel Benetro. Dans le culte nouveau, le fidèle n'est plus un solitaire préoccupé uniquement de son approche personnelle de Dieu. En réalité, l'approche de Dieu correctement vécue et entretenue aura nécessairement comme débouché concret le souci des frères. Et j'ajoute, des sœurs. Fin de citation. Et de leur capacité en particulier à combattre jusqu'au bout le bon combat de la foi, et à saisir ainsi, pour reprendre une expression de Paul, la vie éternelle. D'où l'appel que nous adresse notre correspondant anonyme, encore une fois, à une saine vigilance mutuelle. Une saine vigilance mutuelle. Je dis saine parce qu'il ne s'agit évidemment pas pour nous de nous ingérer indûment dans la vie des autres, comme aiment à le faire certains, pas ici bien sûr, mais à nous montrer attentifs à la conduite des autres. Et ce, moins pour repérer et dénoncer leurs écarts, que pour, seconde partie du verset 24, les inciter à l'amour et à de belles œuvres. Autrement dit, pour les persuader par notre exemple, autant que par nos paroles, de ne rien lâcher et de persévérer à la fois dans leur amour pour le Seigneur et dans la réalisation de ces œuvres belles par lesquelles Dieu a choisi de se communiquer aux hommes aujourd'hui. Mes amis, pour qu'aucun d'entre nous ne renonce si près du but, veillons les uns sur les autres. Ne soyons pas égoïstes au point d'être détachés, indifférents, insensibles aux difficultés que peuvent éprouver les uns ou les autres à rester dans la course. Brillons au contraire par l'attention que nous accorderons au progrès de chacun et par la délicatesse, je dis bien la délicatesse, avec laquelle nous saurons relever, réconforter et relancer l'ami défaillant. Voilà pour la première règle. La deuxième maintenant. Soyez assidus. Soyez assidus. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude. Alors là encore, j'imagine que ça ne vous touche pas directement, mais enfin, sait-on jamais. Pourquoi les Hébreux abandonnaient-ils leur assemblée? Peur de la persécution? Indiscipline? Relâchement spirituel? Nul ne le sait. Pourquoi certains d'entre nous ne participent-ils qu'irrégulièrement aux réunions de la communauté? Les raisons sont sans doute multiples, mais sont-elles bonnes aux yeux de Dieu? C'est la vraie question. Permettez que je m'adresse ici à ceux que j'appellerai les intermittents de l'Église. Pourquoi Dieu attend-il de vous que vous n'abandonniez pas votre assemblée? Pourquoi Dieu? Non pas vos pasteurs, mais pourquoi Dieu attend-il de vous que vous n'abandonniez pas votre assemblée? Pour une raison toute simple, parce que vous avez besoin d'elle. Besoin d'elle pour grandir. Grandir notamment dans votre connaissance, mais aussi et surtout dans votre amour du Seigneur. Que cela nous plaise ou non, c'est un fait. Il n'est pas de croissance spirituelle possible sans contact régulier avec l'Église. Entendez, ses différents membres et bien sûr ceux qui en sont saints ont été divinement établis comme prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, que sais-je, afin, écrit Paul, écoutez bien, je cite, de former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4. Or, aussi longtemps que vous ne serez pas parvenus tous avec nous à cette maturité spirituelle dont Christ est et sera toujours le parfait exemple, vous resterez en danger d'affaiblissement, de découragement, d'abandon. Parce que vous voulez, comme nous, faire et être jusqu'à la fin ce que Dieu attend de vous, ce qu'il attend de nous, soyez donc des fidèles. Des fidèles. Connus pour leur étonnante assiduité. Et le spectre de votre désertion s'éloignera enfin pour de bon. C'était la deuxième règle. La troisième, soyez encourageants. Soyez encourageants. Verset 25, encourageons-nous mutuellement. Dans la situation où nous sommes, encourageons-nous mutuellement. Nous l'avons dit, la course est longue et la pente souvent raide. Et les difficultés dans tout genre nombreuses. Si donc, nous voulons que tous, et je dis bien tous, nous persévérions jusqu'au bout et saisissions ainsi le prix promis, la vie éternelle, l'espérance que nous proclamons, il est indispensable que nous pensions à nous encourager régulièrement les uns les autres. Nous encourager. C'est ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux a parfaitement compris, qu'il nous demande ici de nous montrer tous au sein de l'Église réconfortants, motivants, stimulants, dynamisants même. Et ce, d'autant plus que nous voyons le jour du Seigneur approcher. Encourageons-nous mutuellement. Et dire que si près du grand dénouement de toute chose, si près de l'instant où nous serons tous appelés à comparaître devant le juge suprême, il en est encore dans l'Église, qui se cherche noise, qui se pique, qui se blesse. Si je vous disais qu'il en est ici, qui n'ont jamais autant souffert que de la main de leurs propres frères ou sœurs en Christ. Mes amis, soyons nous de ceux qui s'en voudraient d'en décourager un seul. par une parole malheureuse, un geste intempestif, et dont le désir de voir tous persévérer dans la foi et prospérer spirituellement est tel qu'il ne pense jamais qu'à encourager, encourager encore, encourager toujours. Oui, soyons ceux de ceux qui veillent sur les autres, guettant la moindre défaillance pour apporter consolation, secours et soutien. Puissions-nous apprendre à encourager l'autre d'un regard, d'un sourire, d'un mot, en lui tendant la main, en l'embrassant, en lui offrant de l'accompagner. Pour ma part, je ne dirai sans doute jamais assez ma reconnaissance à l'égard de toutes celles et tous ceux, ici et plus largement dans le cadre de cette communauté, qui un jour ont su me rendre le courage qui me faisait défaut. Sans eux et leurs témoignages d'affection fidèle, discrète le plus souvent, il est peu probable que je me tiendrais là devant vous ce soir. Peu probable. Et qui sait si je serai encore, moi, dans la course? Qui sait? Il nous faut conclure. La route vous semble interminable? Ces difficultés insurmontables, vous vous sentez faiblir? Le courage vous manque pour aller plus loin? Vous êtes tenté de mettre le pied à terre? N'en faites rien. Vous touchez au but, mes amis. Le jour, le grand jour du Seigneur est là, il est tout proche. Amen, oui. Consentez donc ces ultimes efforts que Dieu vous demande. Et remportez le prix promis, la vie, la vraie, dans la présence immédiate de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Vous êtes fatigué d'obéir, vous caressez l'étrange projet de retourner à votre ancienne manière de vivre. Oubliez. Oubliez, je vous dis. Car voici venir le jour. Le grand jour du jugement. Malheur alors à ceux qui, après avoir connu la vérité, après avoir reçu la connaissance du chemin à suivre, n'auront pas persévéré jusqu'au bout. Qui que vous soyez, résistez. Résistez. Et après que vous aurez repris courage ou retrouvé le bon cap, offrez-vous pour prêter assistance à ceux qui défaillent ou qui déraillent. Veillez sur eux, ne les abandonnez pas, encouragez-les encore et toujours. Amen.